Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Vous faites découvrir aujourd'hui Mwamba Mushikonke Mwamous. Il est avocat, sénateur honoraire et actuellement il est administrateur gestionnaire du stade des martyrs. Monsieur Mwamba, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Alors avec vous, dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment, partenaires d'ici et même à travers le monde, grâce à notre site internet www.radioocapi.net. Je l'ai dit, vous êtes avocat, sénateur honoraire. Actuellement, vous êtes administrateur gestionnaire du stade des martyrs. Vous allez nous parler de votre expérience en tant qu'avocat, sénateur aussi. Et puis, comment vous vous retrouvez dans le monde du sport, du Sénat au sport? Vous allez nous raconter la petite histoire dans cet entretien. Mais avant ça, on va faire une petite biographie de votre personne. Vous êtes né à Kabumbulu un certain 6 juillet 1969.
Bien sûr.
Et c'est là où vous avez grandi?
Oui, précisément à Malembankoul.
Vous avez passé toute votre enfance là-bas?
Enfance à Moulongo, à Malembankoul.
Moulongo, Malembankoul, essayez de nous situer. C'est...
Kabumbulu, c'est un groupement. Et Moulongo, la collectivité, c'est ma chefferie. Et Malembankoul, chef-lieu de mon territoire.
Et c'est à Moulongo que vous avez fait vos études primaires?
À Katoma Bassoué, bien sûr.
Et secondaire à Malembankoul.
Malembankoul ou à l'Institut Zibambo.
Et pourquoi ces changements?
Oui, on cherchait là où il y a de bonnes écoles. Hein. Vous savez, à Malembankoul, il y a un institut de prêtres, donc l'école catholique. Alors, il fallait à tout prix aller chez les catholiques, il fallait présenter les tests d'admission. Et j'avais réussi, et on m'avait admis.
Et donc, à Moulongo, il n'y avait pas de bonnes écoles?
Non, il y avait de bonnes écoles, mais c'est jusqu'au secondaire, hein, deuxième CO à son temps.
Et pour la suite, il fallait pour aller la suite, à Malembankoul aller... obligatoirement?
Oui, parce que j'avais l'ambition d'être diplômé et aller suivre avec l'université.
Et vous avez fait quelles études aux humanités?
Maths physique.
Pour oublier de devenir qui?
Non, j'enviais être ingénieur, mais du fait que j'assistais mon père au tribunal secondaire coutumier,
ça vous a changé les idées?
Ça m'a changé les idées, j'ai compris comment il fallait être juriste.
C'est quoi qui vous a séduit, l'art oratoire?
Oui, oui, mon père était vraiment, je dirais, un juriste naturel, quoi. Parce que c'était un chef coutumier.
Ça veut dire qu'il forçait pas, c'était tout naturel.
Il forçait pas et tout. J'ai trouvé dans lui quelqu'un qui m'a inspiré pour faire le droit.
Vous dites qu'il était chef coutumier?
Oui, chef de groupement.
De groupement.
Oui.
Ça veut dire que vous avez grandi dans un milieu de chefs?
De chefs. Puis j'ai grandi avec la culture Luba qui a fait de moi un homme qui comprend certaines choses sans difficulté.
Ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que j'ai été initié à la sagesse des chefs coutumiers.
C'était une façon de vous préparer pour prendre la relève?
Bon, pas me préparer pour prendre la relève en rapport avec le pouvoir coutumier, mais me préparer pour comprendre les signes de pouvoir. C'est-à-dire, là où on peut me mettre, je peux me débrouiller facilement. Avoir cette culture de la gestion de la chose publique.
C'est obligatoire dans votre coutume?
Non, ce n'est pas obligatoire, c'est lorsque la coutume fait le choix. Si la personne ou l'enfant, qu'on trouve que cet enfant a des prérequis pour gérer les autres. Et effectivement, ça s'est justifié. Tout au long de ma vie, j'ai toujours été numéro un. Et même au niveau des organisations des droits de l'homme.
Numéro un, ça veut dire intelligent, vous preniez des initiatives?
Bon, numéro un, pas dans le sens d'être intelligent que tout le monde, non, parce que l'intelligence, c'est relative. Mais le numéro un dans le sens de la gestion, c'est-à-dire là où je suis avec mes collègues ou mes amis, la tendance est de me responsabiliser, donc tout ce qu'il y a comme commandement. J'étais souvent chef de classe. Et arrivé à l'université, vous voyez quand vous venez de l'intérieur, arrivé à l'université, je me suis imposé pour être responsable de la Tapis Rouge, donc une association de juristes publicistes. Parce que je suis publiciste de formation. Et de là, je me suis lancé dans une organisation des droits de l'homme. C'est là où j'ai fait toute ma vie comme expérience. Et là, j'ai géré...
Défenseur des droits de l'homme.
Oui, j'ai géré une organisation de l'église.
Et là, c'est pendant que vous étiez à l'université.
À l'université, oui. Même quand j'ai terminé, j'ai continué. Et c'est ainsi que j'ai géré la CVDF, qui est une organisation de l'Église luthérienne. Et cette organisation m'a ouvert des horizons. Et surtout, j'ai représenté la Fédération mondiale luthérienne dans le secteur des droits de l'homme en Afrique centrale, et ça fait de moi aussi responsable de toutes les organisations des droits de l'homme installées au Katanga.
Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la défense des droits de l'homme?
Oui.
Parti de quoi?
Non, c'est parti d'abord quand j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère quand j'étais en première CO, et j'ai compris que signifie un orphelin des mères quand on est encore jeune. Et avec ça, j'ai compris que tout ce que moi j'ai traversé comme douleur, c'est ce que les autres, placés dans les mêmes conditions que moi, traversent. Et surtout, comme tu le sais très bien, dans le domaine des successions, de beaucoup de choses. Alors je me suis dit, la seule façon d'honorer la mémoire de ma mère, c'est de militer pour la promotion des droits de l'homme. Donc,
surtout des orphelins.
Non, pas des orphelins.
Droits de l'homme en général.
Bon, surtout, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes dans les domaines du droit de la femme, droit de l'enfant. Et vous voyez, c'était une organisation qui avait beaucoup la vocation, la promotion. Je n'étais pas beaucoup plus dans la défense au sens des dénonciations, des protections, non. J'étais beaucoup plus dans la promotion, éducation civique. Alors, éducation à l'action du droit de l'homme. Et éducation électorale, et j'ai formé beaucoup d'observateurs des élections. Et j'ai évolué surtout au Katanga, ce qui a fait que la société m'a coopté pour être...
Vous n'êtes pas inconnu au Katanga?
Ouh, au Katanga, suis.
Tout le monde vous connaît, hein?
Non, au Katanga, là, surtout à Lubumbashi, là où j'ai évolué, au Katanga, là, ce qui a fait de moi notable, être désigné tout petit de tout le monde au Sénat. Pourquoi? Parce que les élections, c'était à Lubumbashi, j'ai représenté les Olomami, et moi, je n'avais même pas postulé. C'était nos amis de la société civile qui ont dit non, tu as beaucoup.
Oui, il doit aller là beaucoup pour
la beaucoup... société civile. Non, ce n'était pas dans ça, c'était dans le sens de la continuité. Qu'il y aura peut-être deux lois qui demandent à ce qu'il y ait quelqu'un qui comprend bien le fonctionnement de la société civile.
Alors, on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va parler de comment vous êtes arrivé au Sénat.
Exact.
Tout à l'heure. Alors, vous avez grandi dans quelles conditions? C'est vrai, vous avez perdu votre mère, vous étiez en première année secondaire, mais vous viviez dans quelles conditions?
De toutes les façons, conditions d'un orphelin.
C'est-à-dire quoi?
Bon, c'est-à-dire, je devrais avoir le sens des responsabilités, me débrouiller, dire que je ne peux pas faire des grimaces ou des caprices parce que je n'ai pas la personne pour me soutenir. Alors, ce que je dois faire, c'est me battre comme toute personne dans la société et tailler ma route. Et ce que j'ai fait.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Ce qui m'a marqué, c'est lorsque j'intervenais pour faire libérer les gens arrêtés arbitrairement. Ça me faisait plaisir. Voir quelqu'un qui n'avait plus d'espoir et qu'on milite pour que cette personne puisse sortir de la prison ou du cachot, alors ça me faisait plaisir et je pensais que c'était ça mon destin, quoi. Ça me faisait plaisir, défendre la cause des autres.
Vous avez commencé ça à quel âge?
La personne qui m'avait inspiré, d'abord pour les signes de pouvoir, je vous ai dit que non, ça c'était mon père. Mais pour être activiste des droits de l'homme, je peux vous dire, c'est un pareil qui s'ignore, qui ne connaît pas qu'il avait investi dans moi. C'est Maître Mbuyulu Yongola. Il m'avait inspiré comment? En 88, il avait tenu une conférence dont le thème était intitulé « Ma lettre à ma future fiancée ». Là, il avait développé ce que signifie les fiançailles. Et moi, connaissant ce que les jeunes garçons vivaient comme injustice, vous voyez, un jeune de 18 ans ou de 19 ans, en gros c'est une fille de 18 ans, et la famille de la fille tabassait les jeunes garçons. Alors que c'était des majeurs. Alors, avec cette conférence débat, ça m'a beaucoup inspiré. Je suis rentré au village pour vulgariser dans des églises et dans des écoles pour dire que non, il n'y a pas d'infraction lorsque un jeune de 19 ans et une fille de 18 ans font l'amour et qu'il y a comme conséquence positive la grossesse. Et là, j'ai vu ce qui se faisait avec le chef coutumier. J'ai compris qu'il y avait un problème. même sur la procédure d'arrestation. Alors, tout ça, et quand je voyais quelque part là des attaques, pour dire que non, cet enfant, depuis qu'il est parti à Lubumbashi, fait ses études universitaires, il vient bouleverser les choses.
Il veut changer les règles.
Voilà, que, pour qu'il se croit, tout ça, alors, c'était beaucoup de...
Beaucoup d'attaques.
Beaucoup d'attaques, jusqu'à ce que je me suis dit, bon, je ne peux pas me décourager. Peut-être...
Vous avez continué quand même.
Oui, j'ai continué. Ce qui a fait que, à partir de l'activisme, que je sois un notable dans la société, même à Lubumbashi, dans les Olomami, à Malembankulu, et partout. C'est grâce
à votre activisme, quoi.
Voilà,
activisme. Alors, vous êtes licencié en droit.
Oui.
Vous avez obtenu votre diplôme de licence à l'UNILU, l'Université de Lubumbashi.
Exact.
Et un master en droit de l'homme à l'UNIKINA.
Exact. Mm-hmm. Et ce n'est pas tout, hein. Je suis en train de traiter des dossiers en rapport avec la promotion et la protection des droits de l'homme. Et je suis en train même de rêver, de défendre ma thèse dans ce secteur-là. Parce que je suis chef des travaux à l'UNIKIN.
Mwambamushi Konke. Mwamousse. Mwamousse, c'est un sobriquet ou c'est
exact,
votre prénom?
Exact, oui, oui.
Ça vient de Mwamba?
Exact, tu as bien deviné. Le nom de baptême, c'est Pax. Mon fils aîné, il a eu ce nom-là, Pax. Et alors, dans la société, comme mon fils est intelligent, alors il est vedette maintenant. On l'appelle Pax. Pax. Je n'ai pas voulu des confusions, j'ai dit non. Je
lui laisse garde le prénom de
le
Pax.
Le prénom, alors moi, je vais avoir un autre prénom. Et je me suis dit, au lieu de chercher midi 14h, je prends Emou de Mwamba. Et je prends Emousse de Mouchikonk. Et j'ai Mwamousse.
Et c'est resté,
et ça fait un bon chemin. Mm-hmm. Parce que Mwamousse, même au Sénat, quand tu cites le mot Mwamousse, on voit un activiste du droit de l'homme.
Le droit de l'homme. Marié, père de combien d'enfants?
Je suis père double 20 fois. Marié, père de 8 enfants.
Mais pourquoi cette exclamation?
Non, exclamation, c'est pour vous dire que, en voyant l'âge, vous allez dire, non, mais c'est ça. Dieu m'a fait grâce, j'ai des beaux jumeaux et je me débrouille bien avec mes enfants.
Est-ce que votre nom a une signification particulière?
Exact, c'est tout Mouchikonk.
Ça signifie?
Homme de situation difficile. C'est-à-dire, moi, souvent, là où il y a des problèmes, c'est là où souvent on m'envoie.
Et vous arrivez à décompter la situation?
Souvent. Parce que je me souviens, même quand la consultation des associations des droits de l'homme est installée au Katanga, quand il y avait des petits pépins, des petits problèmes, j'ai pris la tête de cette organisation des associations des droits de l'homme. C'était une plateforme et j'ai imprimé une gestion. Je peux vous dire même maintenant là. Au stade, c'est quand il y a eu problème, on m'a nommé là-bas. Et je suis arrivé, je pense, je ne peux pas faire des témoignages. Je vais poser des questions à ceux qui sont là.
D'accord.
Tout ce qu'on a fait, ça montre que je suis un homme de situation difficile.
De situation difficile, c'est bien noté. Mouchikonké, donc l'homme de situation difficile. Vous avez œuvré pendant longtemps dans la société civile au Katanga. Vous étiez très actif.
Très actif. Et c'est ce qui a fait 2 mois. Que les membres de la société civile, surtout les gens de la GEC, puissent me proposer...
C'est quoi la GEC?
C'était une association de jeunes étudiants qui militait aussi dans la promotion des droits de l'homme. Alors, j'étais chez moi, et en vacances, et quand il y a eu dépôt de candidature, les gens de la société civile me disaient, non, mon cher, si tu vas là où il y a... comme activité, élaboration de lois et contrôle du gouvernement, tu peux nous défendre valablement. J'ai dit, bon, ça va, on peut oser. Mais avant ça, j'étais commissaire national aux droits de l'homme. Et c'est toujours mon activisme. Comme j'œuvrais au sein des églises, on avait demandé la candidature d'un activiste avéré des droits de l'homme au Katanga, pour représenter les églises au sein de l'Observatoire national des droits de l'homme pendant la transition. Et l'église catholique, protestante, kimbanguiste, toutes les églises, hein, je dirais les confessions religieuses, ils m'ont désigné au Katanga. J'étais à la ferme chez les Littériens, j'ai donné les cours de droit et société à un institut supérieur théologique. Et ils m'ont désigné pour Ils m'ont appelé et je prends un témoin. Maintenant, il est monseigneur, l'abbé Fulgence.
Moutéba.
Alors, ils ont proposé ma candidature avec, j'ai évolué avec Sœur Marie Bernard, qui était même responsable de la commission justice EP. Oui, alors ils m'ont désigné pour être représentant des églises de la province de Katanga au sein de l'Observatoire national des droits de l'homme. Je suis arrivé comme sœur, on m'a donné comme attribution rapporteur de la commission droit civil et politique. Et voilà.
C'était déjà un début.
C'était déjà un début dans la représentation d'un groupe de gens qui croyaient en moi. Et quand on a terminé, on a fini avec l'Observatoire national des droits de l'homme. Et mes amis, ils ont trouvé que non. C'est bien défendu. Ils m'ont proposé candidat. Et
vous avez accepté?
Oui, j'ai accepté. Là où il faut défendre les semblables, j'ai accepté. Et c'est l'erreur que j'ai jouée au Sénat. J'ai joué au Sénat ce rôle-là. Et pour votre information, j'ai initié une loi. C'est la Commission nationale des droits de l'homme. Et j'ai défendu beaucoup de textes. Et entrer à la promotion des droits de l'homme.
On attend toujours cette commission, hein?
Non.
Nationale des droits de l'homme. Ben oui, on ne connaît pas encore les membres.
Bien sûr, je pense qu'il faut toujours prier et être patient. L'essentiel est fait. C'était d'abord qui est l'initiation de cette loi, qui est l'adoption de cette loi, qui est la promulgation de cette loi.
Et on attend la mise en place.
Exact.
Des membres.
Donc,
qui
chaque
vont
chose.
Chaque commission.
Oui, chaque chose a son temps.
Radio Capi, grand témoin.
Le grand témoin vous présente aujourd'hui Mwamba Mushikonke. Mwamus, il est avocat, sénateur honoraire et actuellement il est administrateur gestionnaire du stade des Martyrs. C'est la politique au Sénat. Est-ce qu'un jour vous rêviez de faire la politique, de devenir politicien?
Oui, politicien dans les pas dans les sens politicienne. Politicien dans les sens de la gestion, dans les sens de la défense des intérêts communs. Ça oui. Mais si c'est politicien dans les sens de
politicien,
c'est que nous vivons ou quoi là, non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas pour autant que je suis toujours quand j'ai quitté le Sénat, je suis toujours dans la société civile, je suis responsable d'une commission sauvegarde de la création des droits de l'homme des églises indépendantes. Je suis le numéro 1.
Vous avez été désigné en 2006 sénateur, vous nous l'avez dit ici tout à l'heure, par les membres de la société civile. Ils ont estimé que vous pouviez bien représenter, pouviez bien défendre les droits de l'homme au Sénat. Ça a été fait en 2011. Vous avez décidé de vous présenter aux élections législatives pour devenir député national. Malheureusement, vous n'avez pas été élu.
Non, j'ai été élu avec 29 000 voix. 29 300 voix.
Vous n'êtes pas à l'Assemblée?
Attends, je vais vous expliquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, du fait que, au Sénat, j'ai bien travaillé, j'ai eu au moins plus de 7 diplômes de mérite, d'excellence et d'honneur. Et du fait que dans mon territoire, ce qu'on appelle ici Sissabidimbwa, j'ai construit au moins plus de 5 marché. Du fait que j'ai installé des radios communautaires, à ma qualité de vice-président des radios communautaires du Katanga, et j'ai pris cette expérience, tout ce que j'ai milité dans mon territoire, j'ai fait une bonne campagne. Du fait que j'avais des radios, au moment où tout le monde faisait les pieds, moi avec mes radios communautaires, ils m'ont servi. Et la population m'a beaucoup élu.
Mais pourquoi vous n'êtes pas à l'Assemblée? C'est
voilà.
Une question.
Je suis arrivé à l'Assemblée et j'ai été même validé. J'ai contribué même à l'élaboration des règlements intérieurs. J'ai élu le président Robin et il y a eu une erreur matérielle au niveau de la Cour suprême de justice. Je ne t'ai pas accusé. Nous étions à 4 à Malembankoulou qui étaient élus. Et là, les accusateurs, nos collègues, ont estimé que le 3 et ils avaient triché. Moi, je n'avais pas eu même l'assignation ou quoi. Et arrivé au niveau de la Cour suprême, ça c'est vérifiable, ils avaient invalidé 3 personnes en qualifiant en conclusion que c'est une annulation partielle. Comme moi, je n'étais pas concerné. Mais malheureusement, en citant les gens qui devaient nous remplacer, moi, je n'étais pas cité. J'ai introduit les recours. On a rejeté tout en bloc pour dire que non, on ne peut pas recevoir les erreurs matérielles. Et je me suis dit, ce n'est pas fin du monde. L'essentiel est que ma base est là. Et je continue à faire tout ce que un représentant du peuple peut faire. C'est-à-dire, je continue avec mes projets.
Vous avez une fondation.
J'ai une fondation, Mambamouche Konke Mouamous.
À Malimbankoulou.
À Malimbankoulou. Et même ici, si je vous montre ce que la fondation est en train de faire, même ici, tu peux t'étonner.
Mais pourquoi vous avez quitté le Sénat pour vous présenter à la députation? Vous n'étiez pas à l'aise au Sénat?
Non, vous savez, il y a une, je dirais, une petite injustice selon moi. Une petite injustice selon moi. Lorsqu'on dit que entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi, et que lorsque, ou pas un projet de loi, même une proposition de loi, lorsque vous votez à des termes non identiques, c'est la voix de l'Assemblée
qui prime. Hein?
Qui prime. J'étais choqué lorsque on avait institué la commission sur les élections à la CENI.
La CENI.
La thèse du Sénat reflétait l'image réelle. Mais, en vertu de cette disposition constitutionnelle, le Sénat était tombé. Alors que moi, je trouvais que mes idées défendues par rapport, parce que j'étais président de la commission de loi. Alors je me suis dit, autant aller là où il y a le pouvoir de faire passer des lois, mais de le faire passer correctement. C'est-à-dire, je voulais donner un souffle nouveau au niveau de cette institution, parce que je vous dis, la législature passée, les sénats, parce que beaucoup de sénateurs sont partis au niveau
de l'Assemblée,
je vous dis, les sénats, ce n'était pas une mince affaire, hein. Quand une loi arrive là-bas, dans notre commission, oui, tout était vraiment mis dans des moules. Et surtout que le président Kengo nous avait bien honoré avec mon collègue Ekombe Mpeti. Je suis parti avec lui maintes fois en France pour suivre la formation sur la logistique, comment rédiger les lois. Mm-hmm. Et comment, non, je vous dis, au Sénat, là, c'est toute une école.
Il y a les têtes au Sénat.
Non, c'est ce que disait le président Kengo, que le Sénat, c'est l'école de la modestie. Mm-hmm. Non, ça, j'ai envie.
Vous ne regrettez pas un peu aujourd'hui?
Non, je ne regrette pas parce que mon temps est passé. Je devrais faire. Même aujourd'hui, si tu pars au Sénat, tu cites les mots Mouamous, donc on voit vraiment un homme formidable. Et je ne pouvais pas en abuser. Comme le succès allait en succès, il fallait à un moment donné arrêter, pour que je laisse cette soif-là à mes collègues jusqu'à aujourd'hui, qui me consultent, bien sûr, dans l'informel, quand il y a tel ou tel dossier en termes des conseils en droit, et c'est bien pour moi, comme ça.
Alors, Mambamouche Konke Mouamous, on va souffler un peu. Comment vous passez votre temps lorsque vous n'êtes pas occupé?
Oui, je vous dis que moi, je suis victime de mon parcours, du fait que toute ma jeunesse, je ne fais qu'occuper de grandes responsabilités, ça me prive de passer dans des milieux de loisirs. Donc dès que je quitte le bureau, je rentre à la maison, je commence à me documenter.
Vous n'avez pas le temps pour votre famille un week-end? Vous passez le temps ensemble, une petite sortie en famille?
Non, en famille, souvent c'est beaucoup plus supervision de nos travaux, nos projets, et aussi souvent on aime aller à Kinkole avec toute la famille, parce que là, on mange les poissons.
Les poissons frais.
Surtout que je suis riverain, je suis aquatique. Alors, cette image-là m'arrive. Alors, j'aime bien Kinkole, que rarement, avec ma femme, si on est fatigué, on sera dans des grands hôtels comme Hôtel du Fleuve, bon, rarement. Mais j'aime beaucoup plus Kinkole. Les enfants jouent, on voit l'eau, et ça nous fait...
Ça vous rappelle un peu chez vous, quoi.
Oui, oui, je vois Malembankulu à travers Kinkole, je vois Mulongo à travers Kinkole, je vois Kabumbulu à travers Kinkole.
Alors, est-ce que vous arrivez d'écouter la musique
Oui, oui, souvent.
Quel genre de musique?
Ah, j'aime la musique chrétienne. Ah oui, ça, j'aime. Et surtout, j'aime aussi les sports. Vraiment, quand il y a match, et souvent quand les léopards perdent, c'est tout, j'ai des problèmes de mal de tête. Et souvent quand les léopards jouent, je dois avoir au moins des paracétamol. Parce que je sais que s'il y a un mauvais résultat, je suis malade.
Vous avez des migraines, vous avez des maux de tête.
Ça, oui. C'est pour ça que je demande à l'entraîneur de l'équipe nationale vraiment de ne pas nous causer des maux de tête.
Alors, en parlant de sport, on va aborder la dernière fonction que vous assumez. Hein.
Oui, oui.
Actuellement, vous êtes gestionnaire, administrateur gestionnaire du Stade des Martyrs. Mais avant cela, à part la musique chrétienne, vous n'écoutez pas autre chose?
Non, mais d'autres, la musique, entre guillemets,
mondaine,
bon, on écoute, parce qu'il y a toujours quelque chose d'enseignement. Je ne peux pas tout négliger, mais ma préférence, c'est la musique chrétienne.
Et le folklore
Oui, ça j'aime, parce que j'avais même initié un projet pour la modernisation d'un groupe folklorique à Malembankulu. CTB m'avait financé, j'ai acheté des instruments de musique. Aujourd'hui, si une autorité se rend à Malembankulu, sera accueillie par un orchestre traditionnel modernisé par... les sénateurs honoraires.
Voilà, alors on va demander à Bob, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, tu nous proposes une chanson juste pour souffler un peu. Qu'est-ce que tu nous proposes, du folklore?
Pano pe wenga kenji bika abe watata kushikata kishikata kusepa pine kikisepa po kenga kore kumbali mba maulu chalelo kikiji mwa kwengela abe watata choka. pine ki janga po Waji wa mibu mile pano pe wenda Kenji bika abe watata Kushikata kishikata ku Kusepa pine ki kisepa po Kwenda kobe kumbale mba maulu Chalelo kikiji mwa kwendela Abe watata Choka
Lando pour cette chanson intitulée Joka, une chanson de Francesco Ciccala, c'est un jeune artiste louchois. Cette chanson est chantée en Luba qui signifie reviens. Clin d'œil à Denise Mayomwasi qui nous suit depuis Lubumbashi.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, vous pouvez découvrir aujourd'hui Mwamba Mushikonke Mwamous, il est avocat, sénateur honoraire, actuellement l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs. Ça fait plus d'une année que vous êtes à la tête, que vous gérez le stade des Martyrs, je veux dire.
Exact.
Alors le bilan.
Oui.
J'ai entendu des gens dire que le bilan était positif, que les travaux avançaient bien.
Oui, le bilan, bon, d'abord... Le bilan est positif parce que j'ai au moins une autorité de tutelle qui m'a confié cette tâche avec toute responsabilité. C'est-à-dire quand je gère selon les textes, selon les règles du jeu.
Est-ce qu'il ne vous a pas placé là-bas parce qu'il fallait vous trouver où vous caser?
Non, non.
Après votre échec à la députation?
Non, non, c'est parce que moi j'étais ailleurs, j'étais président de la Caisse nationale pour la promotion sportive, CNPES. Donc, je n'ai pas eu un tas de chômage. Et surtout quand on ne peut pas chômer, t'as avocat, t'as chef des travaux, l'énicune, bon, donc ce n'était pas pour ça. Et aussi président de la fondation qui porte mon nom. Donc, ce n'était pas par pitié ou quoi là. Non, c'est parce que, à un moment donné, la gestion du stade était devenue un peu compliquée. Il y avait tout ce qu'il y a comme aléas de la vie. C'est sûr que, connaissant aussi la signification des monos, il m'a nommé pour mettre de l'ordre au stade. Premier objectif qu'il fallait atteindre, c'est éradiquer le phénomène Kuruna. Deuxième phénomène, il fallait instaurer une discipline au stade. Troisième objectif, il fallait mettre fin à la culture des arriérés. Et troisième phénomène, quatrième, il fallait déjà montrer que un Congolais est capable de gérer ce stade. C'est-à-dire mettre les stades en état de maintenance en termes de d'éviter la salubrité, tout ce qui était comme mots qui rongeaient les stades. Par rapport au premier point, l'objectif a été atteint. Je suis entré, moi-même j'ai été baptisé par le Kuruna, vous entrez comme ça, 13h, 15h, c'est fini. Donc les femmes perdaient les bijoux, les mamans qui achetaient les pains. Alors je me suis mis dans ma philosophie pour dire comment je peux échouer ce phénomène. Et j'ai compris que il faut chercher les gens semblables à eux, les constituer à une équipe d'attaque que je peux engager comme les journaliers pour militer.
Parce que les policiers. Pour faire face à ces Kuruna.
Pour faire face à ces Kuruna, parce que les policiers, il y avait un problème. Les Kuruna mettaient même à genoux certains policiers qu'on nous a amenés là-bas. Alors, ça c'était première stratégie et ça réussit. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en collaboration avec Pire, surtout avec le colonel Van qui est maintenant à Lubumbashi. Non, il m'a aidé sérieusement parce qu'il m'a, il mettait à ma disposition, sans frais, sans quoi, par l'amoussement de sécurité, sa Jeep. Quand on arrête les Kuruna directement, on les mettait dans les Jeep et on les envoie là où il fallait se reposer. Et vraiment, félicitations, ces gens-là m'ont beaucoup aidé, le colonel Van avec le général Seguin. Donc, ça c'est phénomène, aujourd'hui tu peux aller au stade, tu
mais
peux y aller.
Fermé.
Non, non, j'ai dit avant, parce que on a réussi ça avant qu'on ferme. Mm-hmm. Parce que moi je t'ai nommé au mois d'avril, déjà au mois d'août, ces phénomènes étaient éradiqués. Deuxième objectif qu'on a atteint, c'était mettre de l'ordre, la discipline. Cela veut dire quoi? Bon, j'ai trouvé les gens même impayés ou quoi, et j'ai compris que la discipline, c'était tout ce qu'on reçoit comme recette locale, direction caisse.
Vous avez mis de l'ordre dans ce secteur-là.
Voilà, et ça fait qu'on aille quand même des recettes pour faire face, parce que vous savez, les stades a plus ou moins 300, plus de 300 agents. Mais l'État congolais se porte que 100 au budget annexe.
Et aujourd'hui, et tous ces 300, ils sont quand même payés.
Sont payés et sans retard. Donc, il n'y a pas d'arriéré. J'ai même tout ce qui était comme arriéré. Alors, et je vous dirais même qu'avec tout ce que j'ai eu comme confiance des agents, ils m'ont aidé pour mobiliser des recettes et au retour, on a augmenté tant soit peu leur salaire.
Alors, que dire des installations sanitaires?
Voilà.
Des stades.
Du fait que la société civile m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, avec les femmes fortes, j'ai eu à titre gratuit les produits pour la maintenance du stade. Un cargo venu de l'Afrique du Sud, de la société civile de l'Afrique du Sud. Comme activistes de la société civile, ces gens-là, ils nous ont aidés. Ils m'ont dit, non, on ne peut pas te décevoir. Pour qu'on ne dise pas que les gens de la société civile n'ont pas la culture de gestion. Non. Alors, j'ai eu des produits et j'ai débouché. Quand je dis j'ai, donc les comités que je dirige, que je représente, on a débouché toutes les toilettes. Et vous connaissez combien? On a plus de 396 toilettes. Au stade.
Et donc, vous voulez me dire aujourd'hui que les toilettes du stade des Martyrs sont propres?
Non, je dirais que c'était parce qu'on a tout démoli. On est en train de réhabiliter. Ouais. Mais avant, quand je suis arrivé, il n'y avait plus le problème d'odeur. Et j'ai, on a fêté les 20 ans en 2013. Mais première couleur après 20 ans, après la construction, c'est avec Mouamous. Et tout le monde, l'éclairage, c'est avec Mouamous. Hein? Les gens entraient au stade et pensaient que c'est dans...
Avec quel moyen? Du gouvernement?
Non, on n'a pas même les frais de fonctionnement.
Mais
au
vous
stade.
Faites avec quel moyen?
Tout ce qu'on a comme recette locale. Et quelle recette? Je vous dis, madame, c'était seulement la volonté. C'est la volonté. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose qui peut vous choquer peut-être.
Alors, on me signale déjà qu'on n'a plus beaucoup de temps, bon, on va y aller rapidement.
D'accord, les stades gèrent des compétitions. Mais le stade n'est pas organisateur. Et c'est soit des gérades pour les matchs internationaux, soit c'est l'INA Foot. Et quand on perçoit tout ce que, quand vous dites, oh, le stade a fait entrer 100 000 dollars, c'est pour que peut-être le stade se retrouve avec 5 000. Tout est entre les mains des organisateurs. Il y a des clés de répartition. Alors, pour maintenir en état les stades, il faut beaucoup de stratégies, beaucoup de sacrifices. Et c'est ce qui a fait que, au niveau du stade, je vous ai dit qu'au Sénat, j'ai eu au moins 7 diplômes de mérite. Mais au stade, je compte déjà 5e de mérite. Même les journalistes s'y attendaient pas que...
Est-ce que ce n'est pas des mérites que vous financez vous-même, vous donnez aux journalistes?
Je ne connais même pas les journalistes. Non, ce n'était pas ça, parce que même les agents eux-mêmes, vous voyez, on ne peut pas diriger innocemment. Quand les agents eux-mêmes vous remettent les diplômes de mérite en détaillant les bilans positifs, ce n'est pas chose facile. Quand tu diriges les agents, que tu es en train de sanctionner en termes de discipline, tout ça, tu n'as pas que des amis. Alors donc, les journalistes, je vous les jure, en tant que chrétien, je ne connaissais pas ces corporations. Ça, je peux vous les confirmer. Mm-hmm. Oui, oui. Et même moi, ça m'étonnait, j'ai dit, oh, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement, parce que ce sont des habituels des compétitions, ouais. Ils ont vu comment l'odeur au stade, ils ont vu les produits venus de l'Afrique du Sud, quand on
ils
débouchait
ont vu changements.
Les changements, ils ont vu comment un jeune placé à la tête de cette institution, il y a la peinture sans frais de fonctionnement du gouvernement. Alors ils ont
donc
trouvé
il suffit des volontés pour bien faire les choses.
Non, je vous dis que parmi les Congolais, j'ai toujours dit que les Congolais placés dans de bonnes conditions, ils peuvent vous faire un travail
extraordinaire.
Parce que moi-même, je suis le cas.
Voilà, Mwamba, Mouamous, Moussi Konkwe, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Peut-être un dernier mot à tous et toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment.
Oui. Le dernier mot est que je ne cesserai jamais d'être activiste des droits de l'homme, parce que je considère ça comme ma vocation. Et deuxième élément, j'ai dit merci aux sénateurs qui m'ont soutenu tout au long de mon mandat. Et je termine par dire aussi merci aux agents du stade qui ont adhéré à ma discipline, et aujourd'hui le stade des martyrs est compté parmi des institutions bien gérées.
Et il sera réouvert quand le stade en question?
L'année prochaine.
Sûr?
Sûr.
Quel mois?
En principe, non, le mois est connu, c'est au mois de juillet.
Mois de juillet 2015, le stade sera réouvert.
Oui, oui, vers la fin.
Merci beaucoup. Je rappelle à tous les auditeurs que nous suivons en ce moment que Grand Témoin a recevé Mwamba Moussi Konkwe Mwamous. Il est avocat, sénateur honoraire. Actuellement, il est administrateur gestionnaire du stade des Martyrs. Merci à Bob Landou qui était à la prise de son, au micro Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokati.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.